tous les papiers détruits sur ordre des ministres généraux Jean de Parme et Bonaventure, et qui le concernaient, son intelligence, son caractère, m'incline à croire qu'Élie était l'inconnu. Son caractère surtout. Or, Élie était ambitieux. Quittant Assise, il est allé vivre à Bologne, où il est devenu notaire, métier qui ne l'empêcha pas de s'instruire dans cette cité universitaire, la première d'Europe. Et le jour viendra où Élie sera considéré comme un des hommes les plus savants de son temps. Nous ne nous éloignons de François que pour le retrouver dans l'éclairage de son amitié avec Élie. Mais quel bouleversement dans leur rapport! Personne n'aura plus admiré François qu'Élie. Mais pourquoi faut-il qu'il ait semblé être son plus redoutable antagoniste? Il a fourni à Celano une bonne partie de la première biographie que nous ayons du saint, dont il se disait le confident le mieux informé. Frère Léon s'inscrira en faux et réclamera ce titre d'ami le plus intime de François. C'est ainsi qu'il y aura autour de celui-ci d'incessantes querelles qui embrouillent tout. À qui entendre? Et qui a raison? Avec les années qui passent, nous allons trouver l'un en face de l'autre un saint devant un politique éminent. De là des éclats, des brouilles sans lendemain, mais aussi des incompatibilités persistantes coupées de réconciliation. Élie connaîtra de terribles déboires et d'éclatants succès, et ses ennemis iront jusqu'à contester la bénédiction dernière que lui donnera son frère bien-aimé au moment de mourir. À quel moment est-il entré dans l'ordre? Vers 1213 à Cortone? On n'en sait rien. Des documents utiles ont disparu. La seule date qui jette un peu de lumière est 1217, car cette année-là, François l'envoya en mission en Syrie, avec 4 frères. Mission importante dont Élie était le chef. La première mission vers les lieux saints. Élie était donc franciscain éprouvé depuis un certain temps. Mais alors, autre question. Pourquoi est-il entré dans cette fraternité dont il devait quelque peu dénaturer la physionomie primitive? Avait-il la vocation? Nous n'avons pas le droit de le nier. Il aimait François. Mais comment se défendre de croire qu'il voyait, comme François du reste, l'immense avenir de la petite fraternité d'hier qui devait couvrir le monde de ses minores, prodigieux lâchés de moineaux volant vers le ciel et semblant y porter la terre dont ils empruntaient la couleur? La réussite serait sans exemple pour qui s'entendrait à la prendre en main. La gloire, frère Élie. La gloire humaine, il l'aura. Il reste encore parmi les très grands personnages du XIIIe siècle, avec Frédéric II et Innocent III. Il a mis en place le franciscanisme. Dans l'absolu, qu'est-il donc auprès du Poverello? Mais abandonnons-le à ses très nobles rêves temporels. Il voulait la gloire, qu'on la lui laisse. Ce qui lui fait pardonner ses quelques erreurs, c'est son amour pour François. 1214. Il y a dans la vie d'un saint, où l'action et la contemplation se rejoignent, une continuité intérieure qui s'amuse à mettre au défi notre désir de fixer les événements par des dates précises. Nous voulons suivre le temps pas à pas, alors que l'âme se meut dans un présent éternel. Mais nous nous laissons fasciner par la succession des faits derrière lesquels se cache l'essentiel. Néanmoins, quelques points de repère nous procurent l'illusion de mieux comprendre ce qui échappe à notre curiosité. L'année 1214 fut marquée dans la vie de François d'Assise par 2 disparitions. La première fut celle de Jean le Simple. Nous avons vu que François, en parlant de lui, et il en parlait souvent, disait « Saint Jean ». La perfection spirituelle du disparu lui assurait la béatitude éternelle, et François ne le pleura pas. Pleura-t-il cet autre disparu dont nous apprenons la mort, en quelque sorte par incidence, sur les actes notariés concernant les biens des Bernardone, le nom d'Angelo prenant désormais la place de celui de Pietro? Comment savoir? Bernardone, père, fut témoin bien malgré lui de cette espèce de canonisation anticipée du fils qu'il avait si copieusement maudit.